Bonjour. Pour ce troisième podcast des échos égaux délégués, nous accueillons deux sujets très importants. Un sujet qui sera énoncé par Tilio autour du nucléaire et un autre sujet par Titouan autour du continent ou des continents de plastique. Je vous laisse donc entre de bonnes mains avec nos deux échos égaux délégués.
Bien le bonjour, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une énergie que vous connaissez au moins de nom, le nucléaire. Je vais donc explorer avec vous les subtilités de cette énergie. Pour comprendre ce qu'est le nucléaire, faisons un peu de physique. La réaction nucléaire se déclenche quand un noyau d'atomes lourds, en général de l'uranium, reçoit des protons supplémentaires. Ceci va entraîner la mort de l'atome, qui va libérer de l'énergie et d'autres protons qui vont venir percuter d'autres noyaux et cela va libérer une très grande énergie. Aujourd'hui, il semble que le nucléaire soit l'énergie préférée des Français. 69% de l'électricité de l'Hexagone vient des centrales nucléaires. Ah oui, les centrales nucléaires. Tout d'abord, pour que l'uranium produise de l'énergie, il faut l'enrichir à 3%. Contre 99% pour faire une bombe, alors que l'uranium naturel n'est enrichi qu'à 0,8%. Alors une centrale nucléaire marche comme ceci. Un énorme bout d'uranium enrichi est placé dans la cuve du réacteur, dans le bâtiment du réacteur. La réaction nucléaire de ce morceau d'uranium va dégager de la chaleur qui va être véhiculé dans un conduit et pressurisé. Et ce conduit va passer au milieu d'un générateur de vapeur rempli d'eau. Donc la chaleur va produire beaucoup de vapeur, qui va ensuite être conduit dans la salle des machines, qui est par le conduit, la vapeur va faire tourner une turbine, et ce mouvement va faire marcher un alternateur qui va produire de l'électricité. Entre-temps, l'eau du générateur de vapeur va aller dans un condenseur qui ensuite va aller dans le circuit de refroidissement, la grande tour là. Et ceci va produire de la vapeur d'eau. Ce sont les grands panaches de fumée que l'on voit parfois au-dessus des tours de refroidissement. Grâce au fait que l'uranium est un combustible à très longue vie et très énergétique, il donne un super rendement. Avec 1 gramme d'uranium, on produit autant d'énergie qu'une tonne de pétrole ou 2,5 tonnes de charbon. En un mois, un réacteur nucléaire produit assez pour alimenter 500 000 foyers. Avec ses 18 centrales nucléaires et ses 58 réacteurs, la France produit 60 gigawatts par an grâce à cette activité. Pourtant, beaucoup de gens sont réticents face au nucléaire. Certaines personnes pensent que ce qui sort des circuits de refroidissement des centrales est de la fumée radioactive, alors que ce n'est que de la vapeur d'eau. Ensuite, certains pensent que le nucléaire, c'est polluant. Pourtant, le bilan carbone d'une centrale nucléaire est exceptionnellement faible, avec environ 16 grammes équivalent CO2 par kilowattheure produit, incluant les émissions liées à la construction, l'exploitation et le démantèlement. Par comparaison, le pétrole, c'est environ 700 grammes de CO2 par kilowattheure. Ensuite, beaucoup de gens pensent que les déchets radioactifs, ce qui reste de l'uranium enrichi à la fin de sa vie, sont très dangereux. C'est vrai, sauf que ces déchets sont bien gardés. Ils sont enfouis à 400 mètres sous terre, dans des colliers en fer, eux-mêmes coulés dans du béton. En plus, les déchets nucléaires les plus radioactifs produits depuis que la France en fait rempliraient un peu plus qu'une piscine olympique. Mais pour le reste des déchets, il pourrait y avoir un manque d'étanchéité à long terme et il pourrait aussi y avoir des catastrophes naturelles qui pourraient le faire remonter. Mais pour l'instant, on n'a pas encore démontré de résultats, d'éruptions de déchets nucléaires ou de choses comme ça. Enfin, beaucoup de gens ont peur que les centrales nucléaires leur explosent à la figure. Depuis l'explosion de la centrale de Tchernobyl, Ukraine, et de la centrale de Fukushima, Japon, cette peur s'est accrue. Après ce deuxième incident, l'Allemagne a retiré beaucoup de ses centrales avant de les remplacer par des centrales à charbon beaucoup plus polluantes. Mais bon, il faut le trouver, l'uranium. Heureusement, ce métal n'est pas difficile à trouver. C'est le 48e élément le plus répandu sur Terre et il est 500 fois moins rare que l'or. La production mondiale d'uranium s'est élevée à 49 355 tonnes en 2022, répartie pour l'essentiel entre le Kazakhstan, 43%, le Canada, 14,9%, la Namibie, 11,4%, l'Australie, 9,2%, l'Ouzbékistan, 6,7%, la Russie, 5,1%, le Niger, 4,1% et la Chine, 3,4%. L'uranium naturel est faiblement présent dans l'eau de mer à une teneur de 3 mg par mètre cube, soit 1000 fois moins que dans les roches. Le Rhône en charrie près de 30 tonnes par an, issu de l'érosion des reliefs alpins et du ruissellement. Même s'il y en a peu, il est possible de récupérer l'uranium contenu dans ces eaux à l'aide d'un tissu et de quelques solvants. Sinon, comme pour les autres métaux, il y a l'extraction à ciel ouvert, technique plus polluante mais plus rentable en uranium. Ou alors, au lieu de recouvrir l'exploitation à ciel ouvert ou souterraine, il est possible, lorsque la géologie le permet, de pomper l'eau souterraine dans laquelle des produits chimiques ont été injectés à travers le gisement uranifère de façon à dissoudre l'uranium. Cette opération est appelée lixivation in situ. Il s'agit d'injecter dans le minerai, grâce à un conduit, des solutions alcalines, comme celles préparées à partir d'hydrogénocarbonate de sodium, ou bien des solutions acides. L'uranium est alors séparé du minerai dans le sous-sol, puis la solution obtenue est pompée jusqu'à la surface où l'uranium est récupéré. Bref, le nucléaire est une puissante énergie, souvent liée à des dangers par les gens et à manipuler avec précaution. Merci de m'avoir écouté.
Merci Tilion pour ces informations sur le nucléaire. Nous accueillons maintenant Titouan qui va nous parler en fait des causes ou des conséquences en fait des déchets plastiques. À toi Titouan.
Voilà, merci beaucoup. Alors, un continent de plastique, c'est des déchets qui sont emportés par des courants marins, s'agglomèrent à plusieurs endroits dans l'océan et forment des énormes amas. Ils se décomposent petit à petit jusqu'à devenir des microplastiques qui sont invisibles par des satellites et vus de haut. Les plus gros déchets que l'on appelle les plastiques durs, comme des bouteilles ou les gobelets, se trouvent à environ 1000 mètres de profondeur. Il y a aussi les plastiques mous, comme les sacs plastiques ou les paquets de chips, qui eux restent à la surface. Soit ils vont se décomposer et devenir des microplastiques, ou bien alors des petits crustacés vont finir par s'accrocher dessus. Ils vont du coup peser plus lourd et couler doucement jusqu'à atteindre les plastiques durs. Il y a des millions de tonnes et plus d'un trillion de morceaux regroupés à certains endroits par des courants marins. Les microplastiques, quant à eux, sont beaucoup plus dangereux car ils ont des impacts beaucoup plus impressionnants. Ils peuvent se retrouver jusqu'à 30 mètres de profondeur. Il y a plusieurs impacts écologiques à traiter. Les nanoparticules de plastique sont mangées par des poissons que nous consommons ensuite. Nous ingérons donc en très petite quantité du plastique. Enfin, en petite quantité, ça dépend de ce que nous mangeons. Si nous avalons une sardine, la quantité avalée sera microscopique. Par contre, si nous mangeons un gros thon carnivore et prédateur, l'impact sur notre corps sera logiquement doublé. Ce n'est pas directement mortel pour notre corps, mais à long terme, cela peut devenir dangereux. Une fois dans l'eau, le plastique se dégrade et va dégager des substances chimiques et très toxiques. Des marques telles que Pepsi, Coca-Cola ou bien Nestlé ont décidé de moins générer de déchets. De belles promesses car depuis 2015, la pollution plastique a augmenté de 50%. Il y a aussi beaucoup de plastique sur la terre ferme. Il pollue le paysage et met des centaines d'années à se décomposer. Il pollue l'environnement et les animaux qui y vivent. 12,5 millions de tonnes de plastique sont utilisées pour l'agriculture à travers le monde. Nous ingérons donc encore en plus de plastique et des produits mauvais. On estime qu'il y a 75 à 199 millions de tonnes de déchets plastiques dans l'océan, auxquels s'ajoutent à peu près 16 milliards de kilogrammes de plastique. Ce flux constant de production de plastique est tout simplement trop important pour les infrastructures existantes de gestion et de recyclage des déchets. Le plus grand amas dans le monde ferait deux fois la taille du Texas et contiendrait 1,8 trillion de morceaux de plastique. Chaque minute, 19 tonnes de plastique sont déversées dans l'océan. Alors, de qui est-ce la faute ? La malgestion des déchets fait la plupart des déchets qui arrivent actuellement dans l'océan. Souvent par les entreprises, le taux s'élève environ à 150 millions de tonnes. Peu de plastique y sont directement jetés. En fait, ce n'est pas la faute du consommateur, mais plutôt de l'entreprise qui vous manipule. En Amérique, par exemple, de grands panneaux publicitaires affichent des messages qui poussent à consommer. Chaque fois, dans l'année, des occasions sont faites pour vous faire acheter. La Saint-Valentin, la fête du travail, Noël, Pâques, c'est un cycle qui se répète 100 fois et qui nous pousse à acheter. Au lieu de donner leur aventure aux sans-abri ou aux gens dans le besoin, ils les déchirent pour les entreprises de textiles, les écrasent pour que tous les déchets récupérables ne soient plus utiles. Et sont ensuite jetés dans des sacs poubelles qui se trouvent des fois dans la rue à la vue de tout le monde. Bien sûr, je parle de la plupart des entreprises, mais dans un pays d'Afrique, le Ghana, où ils ne sont que 30 millions d'habitants, 15 millions de tonnes de déchets textiles y arrivent chaque mois. Tout a commencé un jour où tous les grands vendeurs d'ampoules ont passé un pacte pour qu'elles durent moins longtemps. Plein d'autres objets, comme les casques de réalité virtuelle, ont bien lors de nouvelles peluches à piles où leurs batteries ne puissent pas s'enlever ni se changer. Elles ont été fabriquées pour durer moins longtemps et leurs coques sont impossibles à enlever s'ils ne marchent plus. Résultat, des déchets qui étaient recyclables au départ sont devenus polluants. Les entreprises textiles régénèrent une masse énorme de nouvelles modes et styles chaque semaine, ce qui est une masse bien trop importante pour que nous puissions les gérer. Il y a plusieurs solutions, mais faire son recyclage est primordial. Lors d'une visite d'une zone d'enfouissement, la guide disait que plus de 70% des ordures qui étaient à cet endroit ne devraient pas se retrouver là, car le recyclage n'avait pas été fait par les producteurs de déchets. Il y a bien sûr quelques associations comme Swim for Change, Surfaders Foundation ou bien Win for the Ocean qui sont indispensables, mais le plus important est que nous pouvons accomplir, nous, à notre échelle, est de faire son recyclage. Mais le meilleur plastique est celui qu'on ne produit pas, donc acheter moins et polluer moins. Moins nous achetons des produits suremballés, moins nous sommes responsables de tout ce que je vous ai parlé. D'ailleurs, un poisson glouton va d'ailleurs être introduit dans la cour du collège pour lutter ce que je vous ai dit aussi pour la propreté de la cour. Merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup Titouan, c'était très instructif et je pense que cela sera utile à mon avis pour plein d'autres élèves ou des professeurs s'ils veulent utiliser ton texte pour ça pourrait être un début d'enseignement sur la cause écologique autour des déchets plastiques. Merci beaucoup et à bientôt.
Bientôt.
Nous réaccueillons Tilio pour nous exposer le programme du mois de mars et du mois d'avril.
Eh bien, merci. Tout d'abord, début avril, nous allons nous associer avec l'île au vert pour planter des pommes de terre. Nous allons nous en occuper et en fin d'année, nous organiserons une journée frite. Ensuite, le 17 avril, les classes de 5e A et de 4e D, ainsi que les éco-délégués, iront au climatographe du Mont-Aigoual pendant une journée. L'horaire de départ sera à 7h50 et le retour à 18h30 au collège. Il faudra prévoir un pique-nique zéro déchet et l'idée serait même d'un repas partagé. Donc un pique-nique zéro déchet, le but est de n'apporter aucun emballage individuel ou un emballage en plastique. Donc le mieux est de prendre plutôt des superware ou autre emballage réutilisable.
Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a au programme de cette journée ?
Eh bien, il y aura une fabrication d'une mini-station météorologique et une randonnée sur le Mont-Aigoual pour étudier l'adaptation des espèces au réchauffement climatique, faune, flore, aux variations hydriques et pour observer l'évolution des paysages, notamment une tourbière. Il vous sera demandé une participation de 15€ pour cette sortie et une vente de gâteaux sera organisée le jeudi 26 mars à l'occasion du spectacle Enfin, organisé par Résurgence et qui se déroulera au collège à partir de 17h15. Nous pensons réduire ainsi le coût par élève de 5€.
Est-ce qu'il y a d'autres projets, Tilio ?
Oui, il y en a un dernier. En mars et en avril, une étudiante du lycée Joseph Vallot viendra nous voir pour créer avec nous des maquettes. Ces maquettes devront représenter un aménagement de la cour pas cher. Ce sera tout pour les projets du prochain trimestre. Merci de m'avoir écouté.
Et nous continuons l'analyse des enquêtes sur les discriminations. Et on espère bientôt pouvoir vous révéler à la fois ce qu'il en est en termes de discrimination dans le collège subie par les élèves. Et aussi, on verra un petit peu peut-être une campagne d'affichage sur les mots qui sont très discriminants à l'endroit d'élèves et qui posent problème. Voilà, on verra ça plus tard. Allez, à bientôt.
À bientôt.